Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Signature hier à Kinshasa du nouveau cadre de coopération pour le développement durable pour les 5 prochaines années. C'est entre le gouvernement congolais et le système des Nations Unies en RDC. Ce document s'articule autour de 4 axes d'intervention, notamment la gouvernance efficace et l'état de droit. Congo central, les incursions des bandits prennent de l'ampleur dans les structures médicales de Songololo notamment. La dernière en date, la nuit de jeudi à hier vendredi au centre de santé de référence Mawete 2, la société civile interpelle les autorités compétentes. Et puis, le changement de la constitution ou la révision de ses articles verrouillés est une fraude à la constitution avec des conséquences juridiques très dangereuses. Déclaration de Paul Gaspard Ngondankoy, député national et porte-parole de l'Association congolaise des droits constitutionnels. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais et le système des Nations Unies en RDC ont signé vendredi à Kinshasa le nouveau cadre de coopération pour le développement durable pour les 5 prochaines années, couvrant la période 2025-2029. Cette signature est intervenue après validation conjointe du contenu de ce document stratégique, reprenant les priorités des Nations Unies en appui à celles du gouvernement. Le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, signé entre Thérèse Kayikwamba, ministre d'État aux affaires étrangères, et Bruno Lemarquis, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, s'articule autour de 4 axes d'intervention définis en lien avec les domaines prioritaires du plan national stratégique de développement. Gisèle Cage nous en parle.
Parmi ces 4 axes d'intervention figurent la gouvernance efficace, l'état des droits et la protection des populations au service d'un développement inclusif et d'une paix durable en RDC. Le cadre de coopération que nous signons aujourd'hui est bien plus qu'un document, c'est une feuille de route ambitieuse co-construite avec toutes les parties prenantes pour accompagner la RDC dans la réalisation de son programme national stratégique de développement et de sa vision pour l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, a déclaré Bruno Lemarquis. La grande innovation du nouveau cadre de coopération est d'orienter les interventions vers l'appui aux politiques et aux réformes à caractère réellement transformateur. Ce partenariat tombe à point nommé puisque le système des Nations Unies va accompagner les efforts de notre pays pour atteindre les ODD qui ont été mis en mal par plusieurs facteurs, tant endogènes qu'exogènes, a déclaré pour sa part Thérèse Kayikwamba Wagner.
Dans l'actualité aussi, MultiPay Congo connecte sa solution MultiPay au switch national permettant le traitement des transactions de la carte Mosolo, une carte interopérable. Celle-ci va désormais donner la possibilité aux Congolais d'avoir accès à leur argent dans n'importe quel terminal d'Equity BCDC, First Bank et Robank. Cette réalisation s'inscrit dans la vision de la Banque centrale du Congo visant à renforcer l'interopérabilité des systèmes de paiement en RDC. Avec ce programme, souligne le DG de MultiPay Congo, sa société contribue à un écosystème financier plus intégré et efficace dans le pays et permettra même aux Congolais vivant dans des zones non couvertes par les banques d'avoir facilement accès à leur salaire. Explication avec Michel Kifindangoy.
À en croire le DG de MultiPay Congo, l'impact de cette intégration s'étend sur toutes les institutions financières connectées au suite monétaire national, favorisant ainsi un paysage de paiement plus cohérent et accessible à travers la RDC. Pour Olivier Bueno, ce développement devrait stimuler l'innovation, réduire le coût des transactions et améliorer l'efficacité globale de l'industrie des paiements. Pour les utilisateurs finaux, cette intégration signifie un accès plus facile et plus rapide aux services financiers avec la possibilité d'effectuer des transactions à travers différents canaux et institutions. C'est-à-dire, les Congolais pourront désormais avoir accès à leur argent grâce à la carte Mosolo dans n'importe quel distributeur de n'importe quelle banque et à un coût de transaction standard. Ce programme Mosolo, soutenu par la Banque centrale du Congo, vise à faciliter l'accès aux services financiers pour tous, en particulier dans les zones sous-bancarisées. En clair, Avec la carte Mosolo, les enseignants de Fara Djenga, Ndanjika, Bulungu et Kanyabayonga pourront désormais avoir accès à leur salaire sans parcourir des kilomètres comme c'est le cas aujourd'hui.
Direction le Sud Kivu. L'association des femmes qui exercent le petit commerce transfrontalier entre le Rwanda et la RDC s'est plainte des mauvaises conditions hygiéniques sur leur lieu de travail au marché Elakat à Bukavu. Sans latrine, ce marché au bord de la rivière Ruzizi accueille environ 1000 petites commerçantes chaque jour. En plus, ces femmes réclament également l'effectivité de la mesure d'exonération des produits de première nécessité telle qu'elle a été édictée par le ministre du Commerce extérieur. Toutes ces préoccupations et bien d'autres ont été exprimées au cours d'une tribune d'expression populaire tenue hier au marché Elakat sous l'égide de l'organisation Alerte Internationale. Le compte-rendu de Jean Kassami.
La tribune d'expression populaire avait pour objectif d'accorder la parole aux femmes exerçant le petit commerce transfrontalier en présence des autorités et des responsables des services étatiques œuvrant aux frontières. Ketia Ngomora, membre de l'association des facilitateurs de biens et de services au poste frontière Ruzizi 2.
Les autorités nous avaient annoncé qu'il y aurait des exonérations par rapport aux produits de première nécessité, précisément pour la farine, des maïs et des manioc. Mais pour le moment, nous sommes encore en train de payer plus de 13 services.
Les difficultés soulevées par les petites commerçantes ont suscité la réaction des autorités, les représentants du maire de Bukavu, Aimé Félicien Mobutu.
Le problème que les mamans, les papas qui exercent cette activité rencontrent au niveau de juge 2, est-ce que c'est la commune qui est concernée, c'est la mairie ou c'est la province? Et alors, s'il s'agit de la mairie, le problème a toujours été résolu. Et s'il s'agit des problèmes qui relèvent de la compétence du gouverneur, le maire fait plaidoyer.
La Fédération des entreprises du Congo, représentée par son directeur provincial, a promis de renforcer les plaidoyers de bouche à oreille afin d'améliorer le climat des affaires des petites commerçantes qui tiennent l'économie de plusieurs ménages. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Direction le Congo central, je vous l'ai dit dans les titres. Une recrudescence des incursions des bandits dans les structures médicales s'observe dans plusieurs entités. La dernière en date, c'était dans la nuit de jeudi à hier vendredi au centre de santé de référence Mawete 2 dans la zone de santé de Ntsonampangu, territoire de Songololo. Le cadre de concertation de la société civile du Congo central hausse le ton et appelle les autorités provinciales à tout mettre en œuvre pour sécuriser les hôpitaux. Le récit de Nana Plurish Mambo.
La nuit du 5 au 6 décembre a été le tour du centre de santé Mawete 2, situé dans la zone de santé de Ntsonampangu en territoire de Songololo. Plus de 3 millions de francs, des téléphones portables et plusieurs biens de valeur appartenant aux malades et à l'hôpital ont été emportés, affirment les responsables de cette structure sanitaire. Les cadres de concertation de la société civile du Congo central dénoncent cette situation. Gilles Benga, son président.
Cadre de concertation provinciale de la société civile s'indigne et dénonce avec la grande énergie les attaques répétitives des centres hospitaliers de la province par les inciviques non identifiés. Les centres hospitaliers sont des structures sanitaires d'intérêt collectif qui doivent être protégées par tous.
Signalons que c'est dans l'ex-cité de Kimpesi en territoire de Songololo que ces mouvements ont commencé avant de s'étendre à Kasangulu. Plus de 7 centres médicaux ont déjà été visités, les personnels soignants et malades bastonnés, l'argent et bien des valeurs emportées. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ce temps, la relation entre la population et la police s'améliore progressivement dans la ville de Bunia, avec comme résultat la baisse de la criminalité dans la ville. C'est le résultat notamment des activités de sensibilisation dans le cadre de la réforme de la police, activité financée par l'Union européenne. Cependant, les jeunes déplorent les cas de tracasserie par certains éléments de la police pendant des patrouilles, des arrestations arbitraires et autres dérapages. Ils l'ont dit hier à Bunia, au cours d'un échange organisé par l'ONG Justice Plus. Isaac Kreboyope, reportage.
Des dizaines de jeunes de quartier Ngezi et Lumumba ont bouclé jeudi la série d'échanges sur la collaboration entre la police et la population. Les participants ont noté une légère amélioration par rapport aux défis, dont la méfiance de certains jeunes qui considèrent la police comme un ennemi, mais aussi le comportement de certains policiers qui se livrent aux tracasseries, extorsions des biens et arrestations arbitraires, ce qui nécessite une implication de tous en vue de renforcer cette collaboration et d'améliorer la sécurité au chef-lieu de la province. Le président des jeunes du quartier Lumumba, Jérémy Nganabobati.
sommes censés vivre ensemble et collaborer pour dénicher les malfrats parmi nous.
Pour la police, les efforts sont fournis pour réprimer les brebis galaises au sein de la police dans sa nouvelle approche de police de proximité qui porte déjà des fruits, notamment la confiance de la population vis-à-vis de la population qui permet de dénicher certains bandits armés. Le commissaire principal Richard Lossa.
La réforme veut que la police soit au service de la population. Et à ce titre, nous avons dit s'il y a des cas de dérapage qui peut dénoncer à nos autorités, il y a des mesures disciplinaires qui sont prévues ou même judiciaires qui sont prévues pour sanctionner les incapacitants.
Plusieurs mécanismes sont mis en place, notamment les plans locaux de sécurité, les forums des quartiers, en vue de renforcer la collaboration entre la police et la population pour la sécurité de la ville. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, la société civile du territoire de Beni exprime son inquiétude face à la recrudescence des attaques des EDF depuis un mois. Cette structure citoyenne affirme que 30 civils ont été tués en l'espace de 2 semaines dans la région. Elle exhorte le gouvernement à accorder la même attention à la lutte contre les rebelles des EDF qu'aux rebelles du M23. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Richard Kirimba, le vice-président de la société civile du territoire de Beni, exprime son exaspération face à ce qu'il qualifie de deux poids, deux mesures. Il considère que le gouvernement n'accorde pas la même attention dans la lutte contre les ADF, contrairement à la rébellion du M23, qui, selon lui, polarise tous les efforts des autorités.
Dans 2 semaines, 30 personnes, 30 vies sont fauchées comme ça. Aujourd'hui, c'est la 1e fois que la population de Beni se sent délaissée, sacrifiée. La guerre contre les ADF semble ne pas être une priorité. La guerre contre les M23. Cette guerre préoccupe beaucoup plus la RDC, alors que la guerre qui fait tuer beaucoup de civils, c'est la guerre des ADF. Et la population de Beni a droit aussi à la vie.
Papi Kasereka, chercheur sur les questions sécuritaires dans la région, appelle les gouvernements et la MONUSCO à prendre au sérieux la menace des ADF.
Que le gouvernement empêche les ADF de se réinstaller comme ils sont déjà en train de s'installer dans la zone, renforcer les moyens humains et matériels dans la zone. Troisième chose, particulièrement à la FIB, que FIB puisse réellement remplir son mandat en renforçant des patrouilles et en plaçant les positions en profondeur.
Nous n'avons pas eu la réaction des FRDC. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et puis, les anciens combattants de Likasi, Kipushi et Lubumbashi dans le Haut-Katanga disent être impayés depuis 3 mois. Dans un mémorandum dont une copie est parvenue à Radio Okapi, ils exigent non seulement leur salaire, mais aussi leur décompte final. En outre, ils plaident auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants pour que leur salaire soit revu à la hausse, allant de 7 000 à 12 000 francs congolais le mois. Leur délégué, Kuna Shambui, explique au micro de Jean Gandou.
Nous, les anciens combattants, depuis le départ de Belge, 1959, nous demandons nos comptes finales. Et puis, les paiements pour 3 mois qu'on a offert. Et notre salaire, qu'on est en train de nous payer 8 000 francs, 7 000 francs par mois. Ça doit nous faire quoi, Michel Boumbashi? Et on a payé depuis Kisafa, Pandundu, Kananga, Bujimai. Seulement ici, ici chez nous. C'est pour cela que nous sommes venus pleurer dans votre haute autorité, le ministre de la Défense nationale, des anciens combattants, qui prévoit refaire nos camps. On nous parle qu'il n'y a pas de paiement. Pendant 3 mois, nous sommes impayés. Nous voudrons qu'on nous donne un peu le compte final et le paiement de moins des arriérés que nous avons fait ici. Quand on nous donne le compte final, nous ne pouvons jamais venir déranger les gens des bureaux ici, des bureaux des anciens combattants. Nous allons rester à la maison. Ici, il y a trop de véhicules. Nous devrions faire des accidents ou des routes.
Autre nouvelle, la plateforme politique Sursaut National de l'opposition exprime sa désapprobation face à l'arrestation de l'un de ses membres, Jacky Ndala, à la suite d'un procès qu'elle qualifie de flou. Ados Ndombasi, l'un des ténors de cette structure, l'a déclaré hier au cours d'une matinée politique organisée à Kinshasa. Il a également démenti les informations distillées à travers les réseaux sociaux, selon lesquelles Delis Essanga, membre de la plateforme Sursaut National, aurait rallié le camp des pro-changements ou révisions de la Constitution. Ados Ndombasi s'exprime au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous assurons les Congolaises et Congolais que le sursaut national demeure debout et compact dans son combat. Les acteurs du régime emploient leur méthode légendaire d'intox, de désinformation et de fabrication des mensonges dans le seul but de salir et de désorienter l'opinion. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime déboussolé. En l'occurrence, l'honorable Delis Essanga poursuit avec nous ce noble combat républicain basé sur les valeurs est dressé contre le changement de la Constitution, ainsi qu'un troisième mandat pour M. Tshisekedi. Dénonçons l'arrestation arbitraire et sans honte de M. Jacky Ndala, membre du sursaut national, et exigeons sa libération sans condition. Le Congo n'a pas besoin de cette justice aux ordres, qu'il se transforme en outil de dictature pour faire taire les voix discordantes.
En sport, Ligue des champions de la CAF, Maniema Union reçoit Raja Athletic de Casablanca ce samedi à 14h au Stade des Martyrs à Kinshasa en match de la deuxième journée. Papi Kimoto, coach de Maniema Union, dit que son équipe est prête pour cette rencontre. C'était hier en conférence de presse avant match où il a estimé que son équipe se porte bien. Il appelle tous les Congolais à soutenir Maniema Union qui, affirme-t-il, va tout donner pour remporter ce match et continuer à écrire son histoire dans cette compétition. Entre-temps, les Corbeaux sont attendus à Nouakchott par Al Hilal à l'occasion de la deuxième journée du groupe A, demain dimanche 8 décembre à 19h GMT. L'équipe n'est pas encore arrivée dans la capitale mauritanienne à la suite de plusieurs problèmes techniques d'un Boeing 737-800 de la Royal Air Maroc. Néanmoins, sachez que l'équipe a quitté Kinshasa ce matin vers 5h heure locale.
Actualité internationale.
Des centaines de personnes ont manifesté hier au Tchad pour demander le retrait des troupes françaises du pays. Cela, une semaine après que ce pays d'Afrique centrale a mis fin à un accord militaire avec son ancien colonisateur dans la capitale N'Djamena. Les manifestants ont scandé, je cite, « Le Tchad pour nous, la France dehors », fin de citation. Certains brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous ne voulons pas voir un seul Français au Tchad ».
L'invité.
Le changement de la Constitution ou la révision de ses articles verrouillés est une fraude à la Constitution avec des conséquences juridiques très dangereuses. Déclaration de Paul Gaspard Ngondankoy, député national et professeur des droits constitutionnels à l'Université de Kinshasa. Il est aussi porte-parole de l'Association congolaise des droits constitutionnels, ACDC. Paul Gaspard Ngondankoy, invité de Radio Kapi, il apporte ici quelques précisions à la déclaration faite par l'ACDC le week-end dernier. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, la problématique du changement ou de la révision de la Constitution, vous avez déclaré que vous êtes disposé à prendre part active au débat sur cette thématique. S'agit-il d'un débat pour le changement ou la révision de la Constitution?
Merci, cher ami Jeff Ngoy. Alors, vous me posez là une question à deux volets différents. D'abord, s'agissant du contenu de notre déclaration, la déclaration de l'Association congolaise des droits constitutionnels, sur le débat autour de la révision du changement de la Constitution, je dirais tout d'abord que dans cette déclaration, les professeurs de droit constitutionnel, membres de la CDC, ne se sont pas prononcés sur la révision ou sur le changement de la Constitution. Ce qui est affirmé dans cette déclaration, c'est il y a quatre idées majeures. La première idée, c'est que les professeurs de droit constitutionnel réunis dans cette association ont pris note du débat que le chef de l'État a déclenché autour de cette thématique. Les professeurs de droit constitutionnel, membres de la CDC, au regard de leur expérience sur l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel. Puis je vous rappelais que certains d'entre nous ont jusqu'à 20 ou 30 ans d'enseignement de droit constitutionnel. D'autres, sinon tous, nous sommes membres des grandes institutions politiques de ce pays. Et donc, les professeurs se sont dit disposés à contribuer à ce débat pour éclairer non seulement l'opinion publique qui est inquiète, mais aussi et surtout le président de la République et les autres institutions qui interviennent ou qui interviendront dans ce processus si jamais il va jusqu'au bout. Donc, par cette déclaration, ils n'ont fait qu'annoncer leur disponibilité à contribuer à l'éclairage de ces débats, point barre.
Pourquoi doit-on changer ou réviser la Constitution?
Au stade actuel, cher ami Jeff, comme je viens de le dire, personne ne le sait encore. Car non seulement le président de la République n'a pas encore convoqué la commission d'experts à laquelle il a fait allusion, mais nous ne connaissons même pas les articles de la Constitution qui seront concernés. Mais je pense qu'en théorie, vos auditeurs, à mon avis, doivent savoir ceci. Et je voudrais développer ici, si vous me le permettez, quatre considérations majeures.
Oui, allez-y.
La première considération, c'est que la Constitution est l'œuvre d'un pouvoir spécial, un pouvoir qui est au-dessus de toutes les autres institutions, de toutes les institutions, qu'on appelle pouvoir constituant, c'est-à-dire un pouvoir qui établit une nouvelle Constitution ou qui modifie une Constitution existante. Quand il s'agit d'établir une Constitution nouvelle, on l'appelle pouvoir constituant originaire. Quand il s'agit de modifier une Constitution existante, on l'appelle pouvoir constituant dérivé ou institué. Ce pouvoir constituant dérivé est par définition limité. si on révise une partie seulement, un point seulement de l'organisation du pouvoir qui concerne la forme d'État ou qui concerne les régimes politiques, parfois en doctrine, on admet qu'il s'agit d'un changement des constitutions. Mais quantitativement parlant, ça ne concerne que certains articles de la Constitution. Dans la pratique, nous, ce que nous savons, c'est que généralement, on ne change jamais tous les articles de la Constitution. Certains articles que nous avons aujourd'hui...
Donc on ne peut jamais faire tabula rasa.
On ne peut jamais faire tabula rasa, comme vous venez de le dire. Donc, voilà. C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de glissement, hein, pour protéger son identité, que notre constitution actuelle a exclu l'opération de révision pour ce qui concerne les matières verrouillées à l'article 220. Si on le fait, en ce moment-là, on change l'identité de la Constitution et il y a des conséquences juridiques qui sont attachées à cela.
Est-ce qu'on tombe dans un coup d'État constitutionnel ou bien un coup d'État institutionnel?
Je préfère parler de fraude à la Constitution.
Si c'est autorisé par la population qui est consultée, par voie référendaire, puisque le peuple étant souverain...
Mais il s'agit de quel peuple? Parce que je viens de dire tout à l'heure que lorsque le peuple se comportant comme pouvoir constituant originaire dote le pays d'une constitution nouvelle, il se dépouille de son pouvoir parce qu'il est en dehors du cadre constitutionnel. Il ne pourrait intervenir qu'en cas de vide constitutionnel. Et donc aujourd'hui, le peuple qui est désigné à l'article 218 pour adopter une révision de la Constitution, ce n'est pas le même peuple que celui qui adopte la Constitution. Et donc, pour avoir des conséquences, ce peuple, il s'est auto-limité à l'article 218 pour ne se limiter lui-même qu'à la révision de certains articles, excluant par là lui-même certains articles qui ne peuvent faire l'objet d'aucun changement, d'aucune modification. Et voilà pourquoi d'ailleurs, moi, à ce sujet, j'ai une initiative. Aujourd'hui, nous nous sentons mal à l'aise, nous, parlementaires, nous demander aujourd'hui de réviser cette constitution, y compris en touchant les articles verrouillés, nous met mal à l'aise parce que nous-mêmes, nous nous mettons en difficulté, voire même en impossibilité juridique d'exister.
Merci, professeur.
Je vous remercie.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy répondait aux questions de Jeff Ngoy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.